Bonjour et bienvenue à l'écoute des émissions en langue française de Radio Prague. Comme chaque semaine, vous le savez, trois rubriques sont au menu de ce programme, dont Culture sans frontières. Aujourd'hui, Anna Kubišta reçoit une grande personnalité de la vie culturelle tchèque, l'ancienne directrice du Festival international du film de Karlovy Vary, Eva Oralová. Václav Richter vous proposera dans sa rubrique littéraire le portrait du poète Ivan Verniš. Et puis, comme tous les 15 jours, Guillaume Narguet vous fera découvrir certaines curiosités ou particularités de la langue tchèque. À moins d'une semaine du coup d'envoi de la 47e édition du Festival international du film de Karlovy Vary, nous vous proposons donc un entretien exclusif avec Eva Oralová, ancienne directrice artistique du festival, devenue simple conseillère, mémoire vivante du festival qu'elle a suivi avant 1989 en tant que journaliste, puis à partir des années 90 dans l'équipe organisatrice. À 80 ans, Eva Oralová est une boule d'énergie qui voue au cinéma un amour sans bornes. Avant d'évoquer dans cette première partie d'émission la façon dont elle a découvert le cinéma, elle est revenue au micro d'Anna Kubišta sur sa jeunesse et nous a expliqué d'où lui venait son français impeccable.
Culture sans frontières.
En français, je suis arrivée par une voie très curieuse parce que quand j'étais toute petite, on habitait à Bubenec, à Davidsen. Et là, il y avait le lycée français et aussi l'école élémentaire et aussi l'école maternelle. Et moi, j'ai commencé à fréquenter l'école maternelle française. Pendant la guerre, on a changé d'habitation. Et donc, alors, je ne suis plus revenue à Davidsen. Mais il y avait, dans proximité de notre maison, il y avait une dame qui était suisse, de la partie suisse française. Donc, alors, j'ai cherché d'approfondir un peu mes connaissances du français. Bon, et après, j'ai...
Pendant vos études, vous avez continué ?
C'était un peu bizarre tout, parce que, vous savez, je suis née avant la guerre. Bon, alors tout ça dont je parle, ça s'est arrivé avant la guerre. Après la guerre, je suis allée au lycée académique ici en Štěpánska, où je n'avais pas le français. Il n'y avait que le russe, bien sûr, à l'époque. C'était obligatoire. J'ai fait d'ailleurs un peu d'anglais, mais tout à fait facultatif. Et après, alors, je ne savais pas où m'orienter. Je voulais étudier l'art, mais c'était pas possible au moment. Alors, j'ai essayé d'aller à la faculté des langues, parce qu'à l'époque, c'était pas la faculté des lettres, c'était la faculté philologique. Probablement, c'était seulement pour une certaine période. Bon, et j'ai étudié le français et le tchèque, parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas choisir deux langues occidentales. Il fallait prendre soit le français et le russe, et soit
une
le français
slave, voilà.
et le tchèque. Après la faculté, alors j'ai travaillé un peu, c'est-à-dire pas un peu, j'ai travaillé beaucoup pendant plusieurs années dans une institution qui s'appelait le Comité des femmes tchécoslovaques.
Et qui consistait en quoi
exactement ? Qui consistait dans les contacts avec les femmes progressistes des pays occidentaux. Mais à l'époque, on ne pouvait pas avoir le visa français. C'était l'époque du général de Gaulle et c'était très difficile d'aller en France. J'ai jamais été en France jusqu'à l'âge de 36 ans.
Ça, c'est cette époque-là, c'est une époque, c'est la période des années 50, je suppose, cette époque où on ne pouvait pas du tout sortir du pays.
Ah oui, on ne sortait du pays, sauf que dans cette institution des femmes démocratiques, progressistes, on luttait pour la démocratie, pour la paix et pour l'amitié entre les femmes du monde entier. Mais on n'avait pas beaucoup de contacts, c'est-à-dire, d'ailleurs, on n'avait aucun contact avec les femmes françaises, tandis qu'avec les femmes italiennes, oui. En Italie, à l'époque, il y avait une très forte organisation des femmes communiste et socialiste. Alors, comme j'ai appris aussi l'italien, j'avais plus d'expérience avec l'italien parce que je sortais avec, en qualité d'interprète avec les délégations des femmes tchèques.
Est-ce que vous vous souvenez du tout premier film que vous avez vu ? Puisque quand même, voilà, il faut parler du film, du cinéma qui est très important dans votre vie.
Certainement, j'ai vu à l'époque les films de Disney, mais je me souviens d'avoir vu un film qui m'a touché beaucoup. Et après les années, j'ai compris qu'il s'agissait de Tabou de Wilhelm Friedrich Murnau. Bon, alors j'ai trouvé à distance des années que peut-être j'avais déjà un peu du talent pour reconnaître un film intéressant. Donc, alors c'était, mais j'ai fréquenté beaucoup le cinéma à l'époque de la guerre parce que on n'avait pas, nous n'avons pas eu ni la radio, mais la télévision n'existait pas. Alors le cinéma, les salles de cinéma étaient pleines. Vraiment, chez nous, dans mon quartier, il y avait 2 cinémas, tandis que maintenant il n'y a aucun, naturellement.
Justement, comment est-ce que vous êtes arrivé progressivement à vous intéresser au cinéma, non pas simplement comme une simple spectatrice, mais également comme une spécialiste ?
Non, je m'intéressais en tant que spectatrice, c'était pas un intérêt profond. Mais pourtant, j'avais peut-être déjà un certain goût pour un certain type de cinéma. Parce que je me souviens que j'ai apprécié beaucoup quand je devais avoir 10 ans ou 11 ans. J'appréciais beaucoup un film qui s'appelait en tchèque le mariage pour la raison, mais c'était un film de mariage du chiffon de Claude Autant-Lara. Et je savais l'apprécier. Et je me souviens aussi qu'à l'âge de 14 ans, j'ai vu un film qui m'a profondément ému. Et après les années, j'ai découvert que c'était un des premiers films d'Ingmar Bergman. Alors je dois dire, de la vue de ma position d'aujourd'hui, que déjà il y avait quelque chose en moi, que je n'appréciais pas autant le cinéma commercial, j'appréciais beaucoup plus le cinéma d'auteur.
Et du coup, plus tard, vous avez travaillé en tant que journaliste, rédactrice film Adoba.
Oui, quand j'ai quitté l'organisation des femmes, j'ai commencé à écrire, j'ai fréquenté un jeune homme que j'ai épousé d'ailleurs, avec lequel j'ai vécu pendant 17 ans, dont j'ai une fille. Et cet homme, il étudiait à la faculté du cinéma. Donc alors il m'a découvert déjà un peu plus consciemment le cinéma parce que on pouvait fréquenter les projections de la faculté organisée pour les étudiants. Et comme ça, j'ai commencé à m'intéresser vraiment du cinéma et j'ai commencé aussi à écrire du cinéma. Après une certaine période et après le changement politique, on m'a demandé de devenir membre de cette organisation qui préparait le festival de Carlo Vivari. Parce que je connaissais déjà Carlo Vivari, mais en tant que journaliste, bien sûr.
Oui, donc en fait, vous connaissez l'histoire de Carlo Vivari depuis, en gros, j'allais dire, les années 60.
Non, je suis venue pour la première fois à Carlo Vivari en 70, tandis qu'à Cannes, j'ai été en 69. Alors j'ai découvert, avant Carlo Vivari, j'ai découvert Cannes. Mais après, alors, je suis revenue à Cannes beaucoup plus d'années après. Mais bien sûr, alors déjà, j'avais l'idée, qu'est-ce qu'un festival peut être, tandis qu'à Carlo Vivari, c'était vraiment moche, c'était pas intéressant, parce qu'à l'époque, les gens ne venaient pas beaucoup au cinéma, c'était la période de la soi-disant normalisation. Alors les films de qualité, c'était vraiment assez rare de les voir. Et comme ça aussi, après les changements politiques, certains partis du pays ou certains de la société intellectuelle a commencé à dire que le festival devrait se transférer à Prague.
Et vous avez voulu rester là-bas ?
Ah oui, alors j'ai lutté avec M. Bartoszka, que j'ai connu dans l'espace de ce conseil d'administration où on était ensemble, qui a préparé le festival en 94. C'était notre premier festival, 94. Nous avons, alors malgré tous les discours de l'inutilité du festival à Karlovy Vary, nous avons préparé une édition qui était assez bien acceptée, mais l'année suivante était déjà marquée de notre lutte contre les intentions de cette nouvelle équipe qui voulait faire le festival à Prague.
Pourquoi vous vouliez que le festival reste à Karlovy Vary?
Mais parce que Karlovy Vary, c'est un milieu beaucoup plus sympathique que Prague. Prague, une capitale pour un festival, c'est pas bien. À Prague ou dans une autre capitale, à Moscou par exemple, ou pourquoi on ne fait pas le festival à Paris et on le fait à Cannes? Et toute l'équipe, bien sûr, se transfère à Cannes seulement 15 jours avant le festival. Comme nous passons à Karlovy Vary seulement de 8 jours avant le festival. Karlovy Vary, vous le connaissez, c'est une ville très sympathique qui a une part vraiment très typique de la ville thermale. Bien sûr, il faut faire le festival tout à fait au centre thermal, l'hôtel. Qui a été d'abord, quand j'ai fréquenté le festival avant, alors Thermal, c'était quelque chose d'inouï, parce qu'avant, les journalistes vivaient dans un hôtel où il y avait, par exemple, 5 personnes dans une chambre et on ne connaissait l'un, ne connaissait pas l'autre.
C'était du camping.
Oui, de cette façon. Être à Thermal, seulement en deux, avoir une chambre pour 2 personnes, c'était magnifique. Mais bien sûr, Thermal, c'est quelque chose de très un peu spécial du point de vue architectural. Mais aujourd'hui, Thermal a regagné le respect parce que on a découvert vraiment pendant les années que c'est un produit typique des années 70 du point de vue d'architecture, et il y a des étrangers qui l'admirent beaucoup. Ils admirent aussi les meubles, les anciens meubles, parce qu'aujourd'hui les meubles anciens n'existent plus, ils sont dans un magasin probablement.
C'est devenu rétro en fait.
Mais ce côté rétro de Thermal aujourd'hui est beaucoup plus apprécié que quand nous avons commencé à organiser le festival, au début des années 90.
C'était Eva Zaoralova dans Culture sans frontières et répondait aux questions d'Anna Kubishta. Place maintenant à notre magazine bimensuel consacré aux particularités de la langue tchèque. Ce magazine vous est présenté par Guillaume Narguet.
Comme son nom l'indique, la couronne tchèque,
koruna česká,
est l'unité monétaire de la République tchèque. En 1993, année de la partition de la Tchécoslovaquie, la couronne tchèque, comme la couronne slovaque chez le voisin, a succédé à la couronne tchécoslovaque qui existait, elle, depuis 1918 et la fondation de la première République tchécoslovaque. Mais ce qui nous intéresse d'un point de vue linguistique est donc cette appellation de couronne. pourquoi ce mot précisément a-t-il été choisi au lendemain de la Première Guerre mondiale pour désigner l'unité monétaire d'une Tchécoslovaquie qui venait juste d'apparaître sur la nouvelle carte du monde? La question est d'autant plus intéressante lorsque l'on sait que la couronne était déjà la monnaie existante sous l'Empire austro-hongrois. Il s'agissait alors de la couronne austro-hongroise qui, en 1892, avait remplacé le florin, aussi appelé gulden. Connaissant la volonté d'indépendance des Tchèques et des Slovaques à l'époque, on peut donc s'étonner qu'ils n'aient pas choisi une autre appellation pour leur monnaie. En fait, les Tchécoslovaques ont envisagé plusieurs appellations. C'est ainsi que les Tchécoslovaques auraient pu utiliser le franc tchécoslovaque,
Československý frank,
le faucon,
Sokol,
du nom du mouvement gymnique et patriotique, le lion,
lev,
le denier,
denar,
le hryvnia,
hryvna,
qui est aujourd'hui l'unité monétaire de l'Ukraine, le
rachin,
du nom du ministre des Finances de l'époque, ou encore, plus amusant encore, mais tout à fait véridique, la betterave.
Répa.
Finalement, la raison l'a emporté. Aucune de ces propositions n'a été retenue et pour préserver la continuité, la couronne, qui symbolisait pourtant l'empereur et Vienne, est restée la monnaie officielle du nouvel État tchécoslovaque. Presque paradoxalement, l'Autriche a elle abandonné sa monnaie impériale quelques années plus tard, en 1924, du fait de son importante dépréciation et de l'hyperinflation pour donner naissance au shilling.
Lundi 18 juin, le poète tchèque Ivan Verniš a soufflé ses 70 bougies. Dans son émission littéraire, Václav Richter brosse le portrait de cet auteur qui échappe à toute classification, mais qui est probablement la figure la plus représentative de la poésie tchèque contemporaine.
Rencontre littéraire. Ivan Verniš est probablement le poète tchèque le plus connu, le plus apprécié et le plus traduit à l'heure actuelle, mais on ne peut pas dire qu'il soit admiré, lu et connu de tout le monde. La place qu'il occupe dans la vie publique illustre en quelque sorte la position qu'occupent les poètes dans la société tchèque et aussi l'attitude des Tchèques vis-à-vis de la poésie en général. D'ailleurs, il ne se fait pas d'illusions sur la place du poète dans la vie publique et le regard qu'il jette sur lui-même et les autres adeptes de la poésie est sarcastique et désabusé. Je regrette toujours et sans cesse de m'être lancé dans la poésie et de ne pas avoir osé y renoncer, dit Ivan Verniš, en ajoutant que s'il conserve dans sa prochaine vie même une infime réminiscence de ce qui lui est arrivé dans son existence actuelle, il ne touchera plus à aucun poème.
Quand le chevalier Walter von der Vogelweide se considérait comme poète, il ne venait à l'idée de personne que ce titre aurait pu le dégrader. Et à l'époque où le poète était héros de la nation, comme Svatopluk Tchèque au XIXe siècle, ce n'était pas non plus dégradant. Aujourd'hui, cependant, c'est ainsi qu'on appelle un homme mou, efféminé, en tout cas fou et un peu idiot, parce que s'il n'était pas idiot, il gagnerait sa vie d'une meilleure façon. Quand tu choisis cette façon de vivre, d'être poète, tu choisis aussi la misère, une vie qui ne satisferait sans doute pas la majeure partie des gens. Pendant toute ta vie, tu porteras des vêtements usés, tu ne boiras que de la bière ou du mauvais vin, et les gens bien éviteront de te parler, mais c'est mieux comme ça.
L'enfance d'Ivan Verniš n'a pas été facile, car il est né en 1942, donc au bon milieu de la Seconde Guerre mondiale, dans une famille qui devait devenir pour lui une source de grands problèmes.
Můj tatínek byl tedy německý voják proti své vůli.
Mon père était soldat allemand contre sa volonté. Il combattait pour le Troisième Reich et cela ne lui plaisait pas du tout. Quand j'étais en première année d'école primaire, l'institutrice m'a invité sur l'estrade, m'a montré aux autres élèves et a dit « Mes enfants, ce garçon a perdu la guerre. Et comme nous sommes meilleurs que lui, nous lui permettrons de montrer qu'il est digne de vivre parmi nous. » Évidemment, je me suis endurci et à partir de ce temps-là, j'ai été l'enfant le plus insupportable, non seulement dans toute l'école, mais aussi dans les environs. Et peut-être cela est-il resté en moi jusqu'à aujourd'hui. Il m'est ainsi échu d'être allemand, mais j'ai choisi d'être tchèque et le suis aussi par ma vie.
L'enfant à problème devient jeune homme à problème. Ivan Vernich aimerait devenir peintre et il étudie d'abord dans une école de céramique. Même si ce rêve ne se réalise pas, il peindra, dessinera et illustrera des livres pendant toute son existence. Sa vie finit par ressembler à un puzzle bigarré. La liste des métiers, ou plutôt des emplois qu'il exercera, est impressionnante. Il est homme de ménage, gardien, machiniste de théâtre, ouvrier du bâtiment, agent de publicité, constructeur de chapiteaux dans un cirque. Il aime beaucoup les ports et il travaille pendant quelque temps comme ouvrier portuaire à Burgas, en Bulgarie. Mais de tous ses métiers, il préfère ceux qui lui permettent de ne rien faire, de dormir ou de paresser avec un livre, des métiers comme celui de gardien. « Je sais que cela ne fait pas bonne impression, dit-il, mais c'est la vérité. » Ce sont les auberges et les brasseries qui sont le théâtre d'une grande partie de sa vie.
« Proseděl jsem v hospodách za život určitě na stovky, tisíce. »
J'ai passé des centaines, que dis-je, des milliers d'heures dans les brasseries. C'est dans les brasseries que j'ai fait la connaissance de la majorité de mes amis. J'y ai trouvé aussi quelques petites amies et énormément d'ennemis. Nous nous sommes bagarrés dans les brasseries, même les poètes se bagarraient entre eux. Et parfois, le matin, le peuple agressait les poètes. J'aime écouter ce que les gens disent dans les brasseries et parfois, je note leurs propos. On n'arrive pas à écrire tout ce que les gens disent, on n'en note que des bribes, et ces bribes composent par la suite des ensembles très bizarres.
Ivan Vernich entre en poésie en 1961 par le recueil intitulé « Où vole le ciel ?». Il renoue avec la vitalité de l'avant-garde poétique tchèque de la première moitié du XXe siècle, mais y ajoute des motifs de la déception, de la fatigue et du sentiment tragique de la vie. Depuis le début, deux tendances majeures se manifestent dans sa création. La ligne grotesque, s'inspirant du mouvement Dada, qui apporte à sa poésie des motifs de comédie absurde, de persiflage et de mystification, et la ligne expressionniste, qui reflète l'obsession par la destruction et la mort, la tristesse et la désillusion. Il n'est pas facile de classer cette poésie, qui se nourrit d'œuvres de grands poètes et penseurs, elle s'inspire de la chanson folklorique. Elle est pleine d'emprunts, de citations évidentes ou cachées, de pastiches et de mystifications. Elle transgresse allègrement les limites des genres et fait découvrir au lecteur un monde poétique où les barrières des styles sont abattues, où il se sent débarrassé de toute contrainte et peut boire jusqu'à l'ivresse aux sources de l'imagination. D'où lui vient tout cela? Que fait le poète pour alimenter ses sources? Où puise-t-il sa force créatrice? Il avoue ne pas pouvoir vivre sans la nature, sans la forêt.
Et si au moins une fois par an, je ne passais pas une semaine, 15 jours dans la forêt, je serais perdu. Ce serait la fin de ma vie. Dans la forêt, je me recharge pour pouvoir continuer. J'y puise de l'énergie pour l'année à venir. Et quand j'y pense, je dois dire que c'est dans la forêt que j'aimerais même mourir un jour.
En parlant de lui, Ivan Vernich aime se présenter comme un être marginal, homme sans domicile fixe et banni de la bonne société, un paresseux qui aimerait passer sa vie sur un canapé. Il y a aussi un autre, Ivan Vernich, auteur d'une vingtaine de recueils de poésie, traducteur de plusieurs langues, un homme ferme qui n'a pas plié devant le régime communiste. Pendant la triste période de la normalisation dans les années 1970 et 1980, il était pratiquement interdit de publication et ses œuvres ne pouvaient paraître qu'en samizdat ou à l'étranger. Les poèmes d'Ivan Verniš sont également appréciés par des musiciens. Ces textes ont été mis en musique, entre autres, par le groupe de Plastic People of the Universe et les compositeurs Mikuláš Hadima et Peter Skoumal. Lauréat de nombreux prix littéraires, Ivan Verniš n'hésite pas à investir son énergie et son autorité dans la découverte de vieux poètes tchèques qu'il dépoussière et fait revenir une fois encore sous l'effet de l'actualité. Il a déjà publié plusieurs anthologies de poésie de ces auteurs qui n'ont pas la chance de figurer dans les manuels scolaires et que les lecteurs ingrats ont enterré depuis longtemps dans le cimetière des poètes oubliés. Il les a arrachés à l'oubli et a réuni des centaines, peut-être des milliers de noms et de textes de ces auteurs marginaux. C'est quelque chose que l'histoire de la littérature a déjà évincé ou n'a jamais accepté, dit-il. Je voulais donner à tous ces gens, une fois encore et pour un moment, la possibilité de revivre. Il se peut donc que cette image qu'Ivan Verniš aime donner de lui-même, et cet autoportrait d'un poète mal dans sa peau qui s'est trompé de vocation et a pratiquement raté sa vie, ne correspondent pas tout à fait à la réalité. Ce n'est sans doute qu'une facette de sa personnalité versatile et insaisissable, et nous ne devons pas croire tout ce que nous dit cet amateur passionné de la mystification.
C'est ainsi que s'achève pour aujourd'hui le programme de Radio Prague en langue française. Magdalena Hrozinková au micro vous remercie de votre attention. À très bientôt. Au revoir.